EMCI TV vous présente Vie de foi, votre rendez-vous avec Pasteur Joël Spinks pour comprendre la parole, déclarer vos promesses et saisir votre victoire.
Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Cette semaine, nous parlons avec Pasteur Alain Patrick Tsengue, qui est un apôtre de Dieu qui dirige une grande équipe bénie en France, en Europe et aussi en Afrique. Et nous l'avons ici avec nous à EMCI TV aujourd'hui. Bonjour, Pasteur Alain.
Bonjour, Pasteur Joël.
Gloire à Dieu. Amen. On parle cette semaine de l'équipe gagnante de Christ. Mmh. On a déjà fait 3 émissions ensemble cette semaine. Et aujourd'hui, on va poursuivre sur un thème vraiment intéressant. Comment élargir notre territoire spirituel? Vraiment, je pense que tu es un modèle pour plusieurs, pour moi, entre autres. Tu as eu un appel, tu as reçu un appel de la part de Dieu, tu as su répondre à son appel, et puis aussi de marcher selon cet appel-là, toujours dirigé par le Saint-Esprit.
Amen.
On a déjà vu comment tu avais été éprouvé. Hein? On a tous des hauts et des bas, mais tu as demeuré dans l'appel de Dieu, persévérant, engagé, vraiment avec beaucoup de ténacité. Donc, on dit gloire à Dieu pour ton ministère et ta vie. Et puis, non seulement tu es apôtre de Dieu, mais époux de Pasteur Paulette et puis papa de 4 enfants et un papa spirituel pour plusieurs ouvriers aujourd'hui. Donc, tu es pasteur de 12 églises, en fait, apôtre sur 12 églises. Et puis, je suis certain qu'il y en a d'autres aussi à venir.
Il y en a d'autres qui arrivent.
Parce que Dieu t'appelle à élargir toujours ton territoire spirituel. Donc, aujourd'hui, j'aimerais ça commencer peut-être, Pasteur Alain, tu pourrais lire Ésaïe 54, juste pour établir un peu le fondement biblique. Donc, Ésaïe 54, versets 1 à 3, on va lire ensemble. Et puis après, on va poser des questions vraiment pratiques. Amen. Parce que cette semaine, c'est ça qu'on fait. On parle des choses pratiques.
Amen, amen. Ésaïe 53, du verset 1 au verset 3.
54.
1 à 4, c'est l'un des passages bibliques que j'aime beaucoup, oui.
Oui, oui.
J'aime beaucoup. « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. » Mm-hmm. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes.
Amen.
Amen.
Donc, Pasteur Alain, toi, tu as reçu cette parole-là aussi pour ton propre ministère.
Oui.
Élargis l'espace de ta tente.
Exactement.
Comment tu l'as reçu dans ta propre vie?
En fait, les églises locales sont comme des ambassades de Christ sur la terre. Et les églises locales doivent être dans la majorité des villes où il y a des êtres humains. Dès qu'il y a des êtres humains, un endroit est peuplé, en principe, il devrait y avoir une église locale pour que des gens viennent être enseignés, viennent adorer le Seigneur, mais viennent se préparer aussi au ministère pour gagner d'autres personnes. Donc, nous, par exemple, en France, on a remarqué que en France, il y a beaucoup de villes où il n'y a pas d'église réveillée. Il y a des églises, il y a peut-être des églises catholiques où dans ces églises-là, il y a des personnes âgées qui y vont et ces églises sont presque déjà vides. Il y a quelques autres églises traditionnelles, mais des églises telles que nous les faisons, il n'y en a vraiment pas. Et nous, notre objectif, c'est d'implanter une église dans chacune des villes de France, dans chacune des villes d'Europe, où il n'y a même pas d'église catholique. Donc, pour nous, c'est important de pouvoir donc préparer le peuple de Dieu à cela et de développer un esprit missionnaire dont on va parler tout à l'heure.
Mm-hmm. Donc, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas. Je souligne ici, ne retiens pas. Pour toi, je pense, Pasteur Alain, est-ce que tu réponds à l'appel de Dieu spécifiquement pour chaque ville? Est-ce que, par exemple, je vais valider un petit peu plus ou décrire ma question. Est-ce que tu attends que Dieu te parle pour une ville précise comme maintenant, ainsi par le Seigneur, va-t'en dans telle ville ou est-ce que tu prends le mandat général d'aller par tout le monde et prêcher l'Évangile? Et puis, est-ce que tu prends juste simplement la carte de la France et tu dis, bien voilà, il n'y a pas d'église dans cette ville, je ressens Saint-Esprit me dit d'aller là et je vais, ou tu attends d'avoir, par exemple, une parole précise, une parole prophétique, une confirmation? Comment est-ce que ça fonctionne pour toi, pour le démarrage des églises?
J'ai deux façons de procéder. La première, c'est que je peux ressentir Les pasteurs aussi peuvent ressentir que dans cette ville-là, il faut qu'on lance une église ACR. À partir de ce moment-là, on se prépare et on envoie une équipe. Mais très souvent, ce qui se passe, c'est que des personnes qui étaient dans notre ministère vont être affectées, soit pour des études ou pour le travail, dans une ville. Et là-bas, ils vont démarrer un groupe. Et nous, on appelle ce groupe les groupes de réveil. C'est comme des cellules. Et à l'église de la Victoire, on appelle ça les groupes vie. Donc, ils vont démarrer un groupe pour pouvoir vraiment se réunir, partager la parole de Dieu en fonction de la vision de l'ACER. Et quand ce groupe-là grossit, on envoie un pasteur ou bien dans le groupe, il y a quelqu'un qui a un ministère pastoral qu'on forme et qu'on établit.
Okay. Très souvent, c'est une chose que tu mentionnes, bon, tu envoies un groupe. Oui. Mais déjà là, il faut que tu démarres un groupe qui fonctionne.
C'est ça, exactement.
Dans certains cas, par exemple, tu mentionnes une personne qui s'en va aux études. Oui. Souvent, ce qu'on a vu ici au Canada, quand quelqu'un s'en va aux études, ils disent, bien là, pasteur, je dois démissionner de tel ministère à l'Église parce que là, je vais avoir trop d'études. Bon, tu as sûrement rencontré des défis aussi en voulant implanter des églises comme ça.
J'ai résolu ce problème en enseignant l'esprit missionnaire. Chacune des brebis de notre église sait que l'ACER est appelée à s'étendre et qu'il faut que nous créions des églises. Et aujourd'hui, on enseigne à chacune des brebis qu'elle peut être un point de contact pour la création d'une église. Donc, quand la personne va dans une ville, ça ne veut forcément pas dire qu'elle quitte la CER. Il faut juste enseigner ça aux gens, mettre l'esprit missionnaire, et les gens, quand ils se déplacent, ils ne démissionneront pas. C'est vrai qu'il y a des personnes qui démissionnent, et ces personnes-là,
mais
souvent...
Mais sans même démissionner d'un poste à l'église, mais juste dire, je ne peux pas en prendre plus, je m'en vais aux études, tu ne peux pas t'attendre que je vais m'investir en plus dans une église ou dans le démarrage d'une église. Est-ce que tu rencontres ça ou pas vraiment?
Oui, je peux rencontrer. Je peux rencontrer, mais je peux dire, je rencontrais avant. Toutes les personnes qui font ça, ce sont les personnes qui n'étaient vraiment pas impliquées. Les personnes qui étaient impliquées dans nos églises, quand elles vont dans des villes, elles finissent toujours par démarrer un GR et regrouper les gens, regrouper des personnes. Celles qui n'étaient pas du tout impliquées vont venir et dire, bon, pasteur, je quitte l'église. Ce que je faisais, je ne pourrais plus le faire parce que je vais dans telle ville. Donc, tout dépend de comment la vision de l'église et du ministère est dans leur cœur. Il y a des personnes qui aiment tellement votre église, l'Église et votre ministère, que quel que soit le lieu où vous les affectez, en vérité, c'est comme si elles veulent transporter l'Église pour amener l'Église dans cet endroit-là.
C'est bon.
Et c'est là où on leur dit, mais vous êtes le point de contact, à partir de vous, on peut effectivement lancer une Église. Donc avant, c'est vrai, on avait ce genre de personnes-là, mais quand on a enseigné sur l'esprit missionnaire, là on a de plus en plus de personnes quand même, quand elles vont ou quand elles veulent s'établir à un autre endroit, systématiquement elles disent, je vais lancer la CER là-bas.
Tu vois, comme dans notre cas, ce qu'on a fait, on a implanté une autre église dans une ville à Sherbrooke, par exemple, ici au Québec. Et puis, il y avait un couple pastoral, mais un couple dans notre église, premièrement, que j'ai reconnu avait vraiment une onction pastorale. Je vois ces gens prendre soin des brebis sans qu'on leur demande, mais juste un couple rempli d'amour. Amen. Et puis, pasteur Riaz et pasteur Michaela, je vous salue.
Amen.
Et puis, c'est que j'ai reconnu chez eux vraiment des cœurs, des beaux cœurs, des gens qui n'étaient pas payés, là. Ils n'étaient pas sur notre équipe salariale, mais ils faisaient l'œuvre de Dieu parce qu'ils aimaient le Seigneur. Et puis, finalement, je leur ai demandé, est-ce que vous aimeriez entrer dans notre programme ministériel pour devenir pasteur, tout ça? Parce que je reconnais la paix sur votre vie. Et puis, absolument, ils ont dit oui. Et puis, ils étaient déjà responsables d'un groupe vie, donc une cellule maison.
Ça, c'est important.
Et puis, on a vu, qu'ils s'investissaient. Donc, on a vu vraiment que ce couple aimait le Seigneur et aimait les brebis. Et puis, finalement, je te raconte mon histoire, pasteur Alain. Bon, comme j'étais en prière, je ressentais que le Seigneur me disait qu'on devait démarrer une église à Sherbrooke. Moi, je n'ai pas reçu une parole prophétique, ainsi parle le Seigneur, mais je ressentais dans mon esprit, c'est une chose qu'on devait faire. Et puis, mais quand je priais toujours en langue le matin. En tout cas, on priait toujours, mais le matin, je me souviens, je priais spécialement pour ce couple pastoral. Et Dieu m'avait dit, ils vont accepter, mais... Lui, il va se remettre en question concernant un détail de sa vie. Et puis, c'est que je les rencontre et puis je leur propose, en fait, le pastorat de cette église. Et puis, les deux étaient enchantés, sauf que lui se remettait en question d'une chose précise, la même chose que Dieu m'avait partagée. Donc, j'ai vu que Dieu était vraiment dans l'affaire, que Dieu avait vraiment choisi ce couple-là. Mm. Et puis, finalement, je disais, OK, priez là-dessus, priez sur ce détail. Et puis après, vous revenez vers moi. Et puis, finalement, ils sont revenus. Puis, ils m'ont dit, Dieu nous donne vraiment le OK. Donc, on va
aller en mission.
Et puis là, on a vu la main de Dieu bénir ce ministère-là. Et puis, c'est toujours un nouveau ministère et je m'investis dans leur vie et puis dans ce ministère-là. Mais je n'ai pas reçu une parole précise. Et puis, je pense, en tout cas, tu me diras si je me trompe, je pense qu'on se limite parfois parce qu'on croit que Dieu doit nous donner une parole précise à chaque fois.
Mais on se limite souvent en faisant penser à ça, oui.
Est-ce que ça fait que pour toi, ce n'est pas nécessaire?
Non, ce n'est pas nécessaire. Tout dépend aussi du besoin. Les gens ont besoin de Jésus et les gens ont besoin d'une église locale remplie du Saint-Esprit. Mm-hmm. Donc, on regarde une ville, on se dit, tiens, cette ville, il y a un besoin qui est là. On peut lancer quelque chose. Mm-hmm. Moi, personnellement, c'est comme ça que je raisonne. Si Dieu ne veut pas que je puisse le faire, il me le dira. Et s'il ne me dit rien, j'implante et on gagne des âmes et une église est lancée. Lyon, par exemple, on a senti. Lyon, ce n'est pas forcément Dieu qui nous a dit « lancez Lyon ». On a senti des amis de l'équipe pastorale aussi, je pense au pasteur Marlène, qui me disait « tiens, je sens qu'il faut qu'on lance à Lyon, apôtre ». Et je lui ai dit aussi « oui, je sens qu'il faut aussi qu'on le fasse ». On a vu le besoin. On a lancé et on a envoyé le pasteur Yvon et le pasteur Tina. Et au bout d'un an, l'église est autonome, l'église grandit et gloire à Dieu. Mmh. On n'a pas entendu une voix et le tonnerre n'a pas commencé à gronder, une apparition d'un ange. Non, et beaucoup se limitent comme ça. Ouais. Ils se disent, tiens, il faut d'abord que je reçoive une parole spécifique.
Mais je pense qu'il y a des gens qui ont peur aussi. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est ma chair? Est-ce que c'est vraiment un projet de Dieu? Mais si on comprend que Dieu nous a vraiment appelés à établir plein d'églises, qu'on doit vraiment, que le royaume de Dieu doit s'étendre partout sur la terre, on doit aussi prêcher à toute la création. Donc, si nous savons, OK, Dieu nous appelle à faire ça, Dieu va nous diriger par la paix et dans la joie. Amen. Mais si on a l'absence de la paix, là, on doit vraiment s'arrêter.
Là, c'est ça.
Peut-être Dieu ne veut pas, dans cette saison-là, parce qu'on ne veut pas juste être occupé non plus. Mm. On veut être productif pour son royaume. Amen. Donc, des fois, Dieu nous dit, non, ce n'est pas le temps, il faut aller à telle place.
C'est
Donc,
vrai.
Je pense qu'on doit vraiment demeurer en communion avec le Saint-Esprit, comme tu fais. Mais aussi, en général, on peut juste avoir cette liberté de répondre à l'appel de Dieu qui est général.
Et général,
mais là, quelqu'un qui me suit, et sûrement il y a des pasteurs aujourd'hui qui écoutent cette émission, qui disent, OK, nous, on a à cœur de faire ça, mais est-ce que notre Église a besoin d'avoir 500 000 membres avant de s'élargir?
Ah, ça, c'est une très belle question, ça, pasteur.
Mm-hmm.
C'est une très, très, très belle
question. Je te laisse y répondre.
Non, c'est une très, très belle question parce que beaucoup se limitent. J'ai étudié les grands ministères aujourd'hui. Par exemple, le ministère d'un homme de Dieu appelé Doug Howard Mills, le ministère du pasteur Chris Oyakhilome. J'ai découvert qu'avant de lancer leurs annexes, avant de lancer les églises, ils n'ont pas attendu d'être à plus de 1000 personnes. J'ai découvert, par exemple, que le pasteur Chris Oyakhilome, il a commencé à lancer des annexes à Lagos et aux alentours. Il n'était même pas 100. Et le pasteur Doug Howard Mills, pareil. Et sérieusement, c'est de source sûre que j'ai eu cette information-là. À ce qu'il paraît, ils étaient juste 50. Ils étaient juste 50. Et ça faisait un moment déjà qu'il faisait des évangélisations de campus avec une équipe qui était avec lui et qui avait grandi dans l'évangélisation. Et il a envoyé ces personnes, il faisait juste un point le week-end avec eux sur ce qu'ils doivent prêcher. Et au final, on se rend compte que parfois, la méga church qu'on recherche viendra à travers les annexes qu'on crée autour. Parce que plus les annexes vont grandir, plus la maison mère va grandir. Quand l'apôtre va rassembler toutes les églises ensemble et on voit autant de monde ensemble, ça crée une dynamique qui amène non seulement les annexes à grandir, mais aussi à l'église mère de grandir. Et beaucoup font cette erreur-là. Et j'ai découvert que si on ne faisait pas ça, on pouvait effectivement grandir aussi.
Mais pasteur Alain, moi, je vais te poser des bonnes questions.
Dis-moi, vas-y.
Mais quelqu'un, un pasteur qui écoute en ce moment, je suis certain qu'il y en a plusieurs qui sont là, qui disent, OK, oui, j'aimerais ça vraiment prendre plus de territoire spirituel, c'est un bon thème, mais, OK, nous sommes trop petits en ce moment. Notre église est trop petite. On n'a pas les moyens financiers, par exemple. Il y en a d'autres qui vont dire, oui, mais si on démarre une autre église, déjà, c'est moi qui prêche le dimanche matin. Et puis là, si on doit faire un culte en après-midi, est-ce que j'ai les ressources? Est-ce qu'on a une équipe de louanges en ce moment, par exemple? Déjà, on a du mal à avoir une équipe de louanges stable dans notre église locale. Ce n'est pas mon cas, là. Heureusement, nous sommes bénis avec notre équipe de louanges. Mais je fais juste partager un petit peu les réflexions que certains pasteurs peuvent avoir. Donc, est-ce qu'on a une équipe suffisamment forte pour aller aussi, admettons, dans un culte en après-midi? Bref, il y a tellement de questions. Est-ce qu'on doit avoir le pasteur déjà en vue avant d'implanter une autre église? Explique.
Bon, c'est vrai qu'il faut investir au niveau des leaders et il faut avoir un leadership fort et des leaders prêts. Ça, c'est sûr. Il y a parfois des trucs dans la croissance de l'Église qu'on ne maîtrise pas, en fait. C'est-à-dire qu'on lance une Église et l'Église va plafonner à 200, 250. Il y a un pasteur qui me disait qu'il a fait des années à 150 membres et il n'arrivait pas à dépasser ce plafond-là. Entre-temps, qu'est-ce qui fait en sorte que l'Église plafonne à 150 ou 250 personnes malgré les âmes que l'Église peut gagner? C'est peut-être parce qu'il y a des personnes qui grandissent. Et elles grandissent très vite, elles reçoivent la parole de Dieu et elles veulent être sur le champ missionnaire pour pouvoir mettre au service les dons qui se sont développés pendant qu'elles étaient sous votre leadership. Donc pendant que vous êtes en train de travailler, l'Église grandit, à un moment donné, vos fils grandissent aussi. Et parce que vos fils grandissent, vous devez leur donner de l'espace pour qu'ils puissent s'exprimer, bien sûr, toujours sous votre leadership, bien sûr, toujours dans la loyauté. Et ça, la loyauté, pour moi, ça s'enseigne. Si vous enseignez à vos brebis et les leaders de votre église la loyauté, ils deviendront loyaux. Le problème de loyauté a souvent bloqué l'expansion des églises et des ministères. Et pourtant, si on prend le temps d'enseigner la loyauté aux gens, ça ne se passera pas mal. Moi, je bénis vraiment le Seigneur parce que j'ai une équipe pastorale loyale et j'ai réussi à le faire parce que j'ai enseigné sur la loyauté. J'ai expliqué c'était quoi la déloyauté, les dangers de la déloyauté. J'ai expliqué les bénéfices de la loyauté et beaucoup, honnêtement, en leur donnant un espace, ils s'expriment, ils travaillent, ils s'épanouissent, ils me font des comptes rendus. Donc, quand vous investissez sur des leaders, après, à un moment donné, là, vous pouvez les envoyer même s'il n'y a pas d'équipe de louange. Avant, dès qu'il y a un prédicateur, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Vous pouvez prendre des CD, vous pouvez prendre Hosanna, l'émission Hosanna, et vous faites passer ça le dimanche pour la louange. Et après, le pasteur vient, il prêche, le leader que vous avez établi vient, il prêche, et je vous assure, ça prendra.
Amen.
Ça prendra.
C'est bon. Dans notre cas, pasteur Alain, ce qu'on fait, on a instauré un pasteur et son épouse, donc les Raïmali. Et puis au départ, moi, ce que je faisais, je me déplaçais. Donc, on a notre culte le dimanche matin à Green Bay. Et puis là, on se déplace. Moi, je me déplace à Sherbrooke, qui est à environ à une heure de notre église. Je pense que c'est important aussi de ne pas établir plusieurs campus dans la même ville. Je pense que c'est sage pour aller ailleurs. Donc, nous, on est à Sherbrooke aussi, dans l'autre campus. Et puis au départ, c'est moi qui prêchais. Mais comme je savais déjà... Dès la première réunion, j'ai présenté ce couple pastoral comme étant le couple qui était pour reprendre cette église. Et puis, dès la première réunion, il y avait déjà une place à s'exprimer. Et après, la semaine suivante, j'ai prêché, je crois, l'intro. Et puis, c'est lui qui a prêché le message. Et puis, j'ai fait la conclusion. Dans les semaines qui ont suivi, après, il prêchait toute la prédication. Et puis, lui, il voulait que je fasse la conclusion pour comme tout clôturer et puis tout rassembler. Et puis, donc, aujourd'hui, c'est lui qui prêche tous les dimanches. Et puis, je me présentais aussi tous les dimanches pour l'écouter, pour évaluer un peu le ministère. Et puis, aujourd'hui, j'écoute plus les enregistrements. Et je me présente une fois par mois. Je fais un peu un suivi pour voir comment ça se passe. Et j'explique aussi vraiment d'une façon pratique pour vous aider à voir comment on peut faire. Pour moi, je fais des rencontres Skype ou FaceTime. Selon les réseaux sociaux qui existent, on peut faire des vidéos. Et puis, ou se parler au téléphone, tout simplement. On parle une heure ou deux. Et puis, on échange sur la prédication, sur les choses que j'ai vues, par exemple, qui devaient être modifiées. L'idée, ce n'est pas du tout d'écraser. Non, c'est plutôt de bâtir et de voir, ceci était bien, mais maintenant, il y a des choses que moi, je changerais. Et puis tout de suite, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment l'ouverture du pasteur Riaz. Il me dit, j'apprécie avoir des conseils, parce qu'en fait, aujourd'hui, ça fait même pas un an qu'il prêche. Et puis, je peux dire qu'il prêche mieux que certains pasteurs qui prêchent depuis 30 ans.
Amen. Je l'écoute. Parce qu'il écoute tes conseils.
Oui, et puis vraiment, je vois, c'est biblique. Il rajoute des anecdotes aussi pour... pour illustrer des vérités bibliques. Et puis, je vois aussi que les petites choses que je voyais au départ, ces choses-là ont été éliminées. Mm. Mais il y a des pasteurs aujourd'hui qui prêchent depuis 30 ans mm-hmm. et puis ils n'ont jamais eu un mentor pour leur donner des conseils. Et puis, on voit les mêmes problèmes qui se reproduisent des années plus tard. Donc, je pense que ça, c'est vraiment important. Mais de mon côté, moi, ce que j'ai fait, je t'ai appelé, on a parlé au téléphone ensemble parce que je ressentais dans mon esprit qu'on devait le faire. Et toi, tu avais déjà peut-être 8 églises à l'époque, je ne sais pas. Et puis, je voulais voir comment tu travaillais. Et puis, j'ai reproduit, en gros, j'imagine, la même chose. Vraiment, c'est un contact comme ça où on parle ensemble, on partage et puis je réponds à des questions. Et puis, on voit l'œuvre de Dieu avancer.
Amen.
Puis, une chose importante aussi, c'est que je ne mets pas de pression sur ce couple pastoral pour le nombre.
C'est important.
Ça, c'est important. Je ne sais pas si tu en as parlé de ça.
Non, c'est vraiment important. Une relation de confiance doit s'établir entre vous et la personne que vous envoyez. Et c'est important de pouvoir miser et d'investir sur la croissance spirituelle de la personne. Parce que si elle grandit, l'œuvre va grandir. Si elle grandit, l'Église va grandir. Mm-hmm. Donc, si vous mettez une certaine pression sur elle, à un moment donné, elle sera tentée de prendre des raccourcis ou peut-être même de laisser tomber. Alors que si elle grandit, tout naturellement, elle aura de quoi donner au peuple et ça va grandir systématiquement. Exactement. Il ne faut pas que la personne fasse le ministère avec un stress supplémentaire. Par exemple, pasteur, aujourd'hui, lorsque j'implante une église, tout le point financier, du début jusqu'à la fin, c'est l'église mère qui finance.
C'est ça.
Et je dis à la personne, tu ne t'occupes pas de ça jusqu'à ce que je vois que l'église a atteint l'autonomie financière. Mm-hmm. Je me rappelle de ce que j'ai fait à Lyon. Pendant une année, l'église de Paris finançait l'église de Lyon et ça demandait vraiment beaucoup d'argent. Et moi, je préférais supporter cette pression financière-là pour qu'eux, ils puissent se concentrer sur la création de l'église, exactement, s'investir sur les âmes. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et quand j'ai vu dans les comptes que l'église, au bout de 11 mois, était déjà autonome financièrement. Et j'ai attendu que ça se reconfirme 3-4 mois après. Et c'est comme ça que j'ai appelé les pasteurs que j'ai établis. J'ai dit, écoutez, à partir de ce moment-là, on va ouvrir un compte. Je vais petit à petit vous laisser gérer les charges quotidiennes. Je vais voir comment vous faites, toujours en toute loyauté. Et c'est comme ça qu'ils ont pris la main. Bien sûr que moi, mes églises ne sont pas indépendantes financièrement. C'est juste des comptes qu'on ouvre pour chacune des églises et je vais apprendre à ces pasteurs-là à gérer l'argent d'une église. Ça fait partie de la formation. Bien sûr que j'ai toujours mon mot à dire, c'est moi qui décide, c'est moi qui dis on fait ceci, on fait cela. Et avant qu'ils ne fassent une grosse dépense, bien sûr, ils m'informent et avec un conseil avisé, je leur dis ce qu'il faut faire.
C'est ça, c'est voilà. Très, très bien.
Mais la pression financière, pasteur, la pression financière, ouais. Ça, c'est très important parce que beaucoup peuvent abandonner le ministère lorsque vous les envoyez à cause de la pression financière.
Exactement. C'est vraiment très, très sage. Moi, j'aime cette façon de travailler. Dans mon cas, ce que je disais au pasteur de notre campus à Sherbrooke, je lui disais, en fait, mon cœur, ce n'est pas de voir cette église grandir rapidement. Même si, oui, c'est bien, mais j'ai dit, moi, ce que je souhaite vraiment, c'est que toi, tu grandisses. Amen. Parce que si tu grandis spirituellement et en expérience aussi, bien, tu vas être capable de porter ce ministère et vraiment, je vais pouvoir aussi me retirer c'est de vrai. Plus en plus. Et c'est ça que je veux, parce que si ses yeux, en fait, sont fixés sur la foule, parce qu'au départ, comme j'étais là au tout début, bon, il y avait un certain regroupement qui était là, gloire à Dieu, et après, si je me retire, peut-être aussi certains vont se retirer. Donc, on ne veut pas bâtir l'Église sur des personnalités, mais sur le Seigneur. Et puis, je lui disais, peu importe la foule, bon, moi, j'ai déjà entendu ceci, je vais le répéter, je ne me souviens plus qui a dit cette parole, mais les foules, en fait, sont comme les vagues de la mer. La foule vient et la foule quitte.
C'est vrai.
On a un invité spécial un dimanche matin.
Les gens
viennent. Une foule énorme arrive. Et là, la semaine suivante, c'est pasteur Joël. Parce que c'est local. Bon, localement, les gens peuvent dire « Ah, ou c'est juste un prédicateur local, donc bon, les gens restent à la maison ce dimanche. » Donc, on ne veut pas bâtir notre ministère sur la foule, mais on bâtit notre ministère sur la parole de Dieu, la puissance de Dieu, dirigée par le Saint-Esprit, et l'homme et la femme de Dieu peuvent devenir plus matures, plus forts, et puis déjà, je vois qu'ils passent à travers des épreuves, et je suis là aussi pour encourager, pour prier, et puis c'est vraiment une grâce de voir l'œuvre de Dieu s'étendre comme ça.
Amen, amen. Pasteur, c'est important d'investir en amour en exhortation, sécuriser la personne, la mettre en confiance et ne pas se fier tout simplement à nos objectifs d'entreprise, quoi, en fait. Du genre, non, moi, je t'établis, moi, je veux qu'en tant de temps, il y ait déjà tant de membres, en tant de temps, et on met une certaine pression. Non, le but ici, c'est de faire en sorte que quelqu'un qui est appelé par Dieu, qui était dans ton église, soit épanoui.
Amen.
Le but, c'est que la personne puisse exercer ses dons, libérer ses dons et aider les gens. Et pour ça, vous devez lui manifester de la confiance, de l'amour, rassurer la personne et créer un cadre qui permettrait à la personne de correctement exercer son ministère. Et c'est là où ça vient tout seul. Quand on met des pressions, je ne sais pas, on vient avec une mentalité entrepreneuriale, avec des objectifs. Non, je veux qu'au bout de tant d'années, tu aies tant de membres. Ce n'est pas mauvais d'avoir de tels objectifs, mais il ne faut pas que ça devienne des pressions sur la personne qu'on établit. Il faut investir dans la vie de la personne. Il faut l'aimer et lui dire toujours qu'on lui fait confiance et qu'on est là pour pouvoir redresser si elle fait quelques erreurs, qu'elle ne s'inquiète pas.
Exactement. Il demeure enseignable et c'est là où Dieu bénit aussi.
Amen.
Dans l'humilité. Comment élargir notre territoire spirituel? Une chose importante, on précise c'est un territoire spirituel.
Amen.
Et on ne parle pas ici des immeubles. Parce qu'il y a des gens, je sais que dans le monde chrétien, quand on veut démarrer une église, comme on a fait, certains pasteurs, la première chose qu'ils vont faire, OK, je dois trouver un local, un local permanent où je vais être là 7 jours sur 7.
Ah,
un instant, il y a des choses qu'on doit vraiment réfléchir.
Amen.
Parce que pour moi, quand on a démarré, on n'avait pas une église stable. On montait et on démontait tous les dimanches matins.
Nous
on
aussi.
A fait ça
Nous
pendant
aussi.
Des années. Et puis, je préférais mettre l'argent dans une location comme ça, okay, qui nous coûtait très peu comparativement à une location
développer
à moi.
L'église
pour
après,
développer,
c'est
pour payer pour de la publicité, pour payer pour les ministères, pour le développement des ministères. Bref, on a investi notre argent dans autre chose qu'un loyer
et
les
assurances. Important, oui.
C'est hyper important. Mais on ne parle pas d'un développement au niveau des immeubles ici, là, qu'on va avoir plein d'immeubles. Donc, quand on démarre une église, comme dans le cas aussi dans notre campus, c'est une église qui est montée, démontée tous les dimanches. Donc, on a une équipe de serviteurs. Et même au niveau de la louange, au départ, on a eu la contribution de notre frère Gwen Dresser, mon épouse, qui allait au départ aussi pour louer avec des musiciens. Mais aussi, après un certain moment, on a envoyé les vidéos de Hosanna. L'émission Hosanna. Et puis, en fait, ils ont vécu des visitations du Saint-Esprit
Amen.
Avec la louange d'Hosanna. Donc, on dit gloire à Dieu pour ça.
Alléluia.
Donc, c'est possible. Et j'ai dit aussi, on a eu des musiciens, des gens qui savaient qu'ils pouvaient faire de la louange. Mais moi, je préfère, et j'ai dit à Pasteur Ria, je préfère voir si les gens vont vraiment adopter la vision de la maison. On ne recherche pas tout de suite des musiciens, des chanteurs. Je veux voir est-ce qu'ils veulent être dans cette maison, dans cette vision. Parce que si on place quelqu'un rapidement parce qu'elle chante ou elle joue de la musique, on la met immédiatement sur l'estrade.
La personne partira après.
Et on peut avoir des problèmes aussi. Donc, ce n'est pas ça qu'on veut. On veut établir des bons fondements dans la parole. Et puis aussi, on préfère avoir des enregistrements, des vidéos d'Hosanna qui sont des vidéos ointes. Et puis après, Dieu va envoyer les bons musiciens qui vont être éprouvés aussi dans le temps, qui vont être dans notre vision. Et puis voilà.
Amen.
On va poursuivre demain. Il y a tellement de choses qu'on pourrait
dire. Vraiment?
Mais je pense que vous allez aider, que vous soyez un... que vous allez être aidé si vous êtes un pasteur ou même une brebis. C'est important pour vous de comprendre ces choses-là pour qu'on puisse vraiment s'unir dans la foi pour l'expansion du royaume de Dieu. On a parlé aujourd'hui de notre territoire spirituel, comment on veut élargir ce territoire. Gloire à Dieu, on va y arriver. Et demain, on va parler du réveil grâce à ce ministère apostolique qu'on reçoit dans le nom de Jésus. Donc, merci, Pasteur Alain, d'avoir
merci,
été là.
Pasteur Joël.
Merci à vous. D'ici à demain, soyez richement bénis.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Vie de foi sur emcitv.com.